Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus.
C'est vrai que ça fait du bien.
Avec toutes les précautions effectivement nécessaires. Et aujourd'hui, comme d'habitude, de 18h à 19h, nous allons vous proposer des actualités geek et ludiques. Et pour animer cette émission, nous sommes quatre aujourd'hui. Il y a même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Pierre-Yves.
Salut tout le monde.
Et de Dominique.
Salut à tous.
On a un gros sommaire. Alors, il n'y a pas grand-chose dans le sommaire, mais on risque d'en parler longtemps. Puisque, on peut le dire, il y a l'un des événements les plus geeks du monde qui va avoir lieu la semaine prochaine. Et il va avoir quelque chose d'unique, puisque effectivement, tout le monde doit s'adapter plus ou moins à de nouvelles priorités. Et ici, tout le monde aura la possibilité, et attention, c'est grand, de participer à la Comic-Con de San Diego, qui est une des Comic-Con, on peut dire la seule et l'unique, mais non, puisque tout le monde a sa Comic-Con, chaque pays,
c'est
même
référence
Paris.
De salon pour tous les geeks, que ce soit de séries, de jeux de rôle, de jeux vidéo, de science-fiction et de comics, et de comics, il y a quand même comics dans le nom. C'est l'endroit où se rendre, puisque même pour ceux qui regardent, qui connaissent la série Big Bang Theory, chaque année, presque, il y a un épisode de Noël, souvent dans les séries, il y a un épisode de la fête nationale, puis il y a l'épisode pour les membres de Big Bang Theory, c'est où ils essayent d'aller à la Comic-Con, parce qu'ils n'y arrivent pas toujours.
Mais, c'est ça. Alors, vous n'êtes pas obligé d'y aller déguisé, hein, donc la semaine prochaine...
Tu peux te déguiser pour le regarder sur ton PC, c'est vrai.
Oui. Alors, pour y être allé, enfin, moi, une fois, c'était au Canada. Je ne sais pas si c'était Comic-Con, mais en tout cas...
Oui, parce qu'il n'y a pas que San Diego. La Comic-Con est un petit peu partout. Il y a même la Comic-Con en France.
À Paris.
Mais bon, hélas. Mais qui la était, vraie, la
qui
pure...
Qui était avant combinée avec la Japan Expo.
Exactement.
Et qui, après, était séparée, puisque, effectivement, ça faisait appel à tellement de
comme
gens.
Comme quoi, il y a des geeks qui sont là, qui sont prêts à venir et à dépenser plein de sous pour entrer dans le salon et dépenser plein de sous dans les boutiques et encore plus de sous pour rencontrer leurs vedettes préférées.
C'est un vrai commerce, effectivement, pour aller voir les vedettes qui viennent vous dédicacer aussi des photos et autres. Parfois, il faut payer.
C'est un des seuls événements où tu payes pour entrer dans un supermarché où tu vas dépenser de l'argent.
Alors, parfois, il faut payer. Ça dépend quel type de célébrité tu as affaire. Mmh. Mais c'est vrai que pour avoir été dans des événements en Belgique où tu peux... Dès que tu as des stars américaines, généralement, il faut sortir le petit 10€ minimum 10€ pour avoir sa photo.
C'est très gentil.
Je dis minimum.
Qui veut aller voir des stars de Stargate aussi, franchement.
Mais Tilk était très sympathique.
Et donc là, c'est du... On est le 19, on peut le dire, on est en direct, on est le dimanche 19. Et c'est du 22 au 26, donc ça commence mercredi. Et tous les jours, il y a plein de programmes. Alors, c'est en ligne, bien sûr, c'est sur YouTube pour la plupart. Alors, on ne pourra pas serrer la main ou se prendre en photo, faire un selfie avec tes vedettes préférées, mais elles seront là, elles pourront discuter. On va essayer de détecter un petit peu le programme tout au long de l'émission.
Tu pourras faire plein de photomontages et faire comme si tu y étais.
Ah, pas bête.
Oui. Alors, on parlait la dernière fois d'un site qui vous permettait d'avoir, une somme, alors j'allais dire modique, mais ça dépend. Vous pouviez avoir une dédicace personnalisée en vidéo d'un de vos artistes préférés. Est-ce que quelqu'un se souvient du nom du titre, du nom du site ?
Cameo.
Cameo.
Cameo.com.
Et peut-être que là, à cette Comic-Con, ça sera possible.
Ah, mais je suis sûr qu'ils se sont placés.
Mais plus que les célébrités, puisque c'est vrai que d'habitude, lorsque tu vas dans un salon, tu te dis, bon, on va voir quelques célébrités, voilà. Ça va être sympathique, je vais peut-être voir un trailer d'une nouvelle série, oui, est-ce que je vais voir le nouveau Walking Dead ?
Je vais récupérer des autocollants et des pins de telle ou telle série, c'est ça qui est...
Mais là, comme ça va être en ligne, puisque va être en téléconférence, on peut dire ça comme ça... Là, ce qui va être important, c'est éventuellement ce qu'ils appellent des réunions ou des
ateliers.
Des ateliers, où vous allez pouvoir apprendre avec les plus grands des séries ou des comics, apprendre certaines choses. Alors, est-ce qu'il y a quelques événements comme ça qui vous ont interpellé, sachant qu'on risque d'en dévoiler plusieurs pendant l'émission, puisque... Est-ce qu'on a rappelé les dates ? Tout ça aura lieu la semaine prochaine, du 22 au 26.
Du mercredi 22 au dimanche 26 ?
Je pense. Heure américaine.
Oui, jusqu'au dimanche 26. Ah oui, tout est aux heures américaines, malheureusement. Donc, c'est sur le... Alors, pour avoir le programme complet, c'est sur le site comic.com. omic.con.org.
Et là, vous avez tout le
jour par jour. Il y a le détail. Et ça s'enrichit, ça s'est enrichi depuis la dernière fois que j'ai regardé, parce qu'effectivement, il y a des vedettes qui seront disponibles au dernier moment. Et peut-être même que pendant le Comic-Con, il y aura des nouveautés. Donc, il faut regarder tous les jours.
De mémoire, on peut s'inscrire, y assister gratuitement.
Alors, tout est gratuit.
Tout est gratuit.
Il y a pas de, oui, comme ça en ligne, il n'y a pas de nombre de places réservées, etc. Il n'y a pas, pas forcément d'inscription. Il y a peut-être certains ateliers, mais en tout cas, pas dans les ateliers publics, en tout cas. Il y a peut-être des ateliers après, plus où il faut peut-être s'inscrire, où il y a peut-être des places réservées, mais globalement, tout est expliqué.
Avant, il fallait s'inscrire, puisqu'il y avait des places limitées dans la salle. Ici, limite, c'est
la plus grande salle de convention du monde.
Ça va être le support réseau, si jamais le site ne va pas tomber. C'est juste ça. Le plus embêtant, c'est... Enfin, ce qui est bien par rapport au Comic-Con, c'est que tu vas ne pas avoir d'attente ni de problème de place pour les ateliers et les différents lieux où tu vas devoir être intéressé. Par contre, c'est le fait que tu as trop de choses à faire par journée et il faudra que tu choisisses. Tu ne pourras pas tout voir.
Comme c'est sur YouTube... Tu peux les voir en décalé. Bon,
tu t'évites les odeurs du voisin aussi, ça c'est pas mal.
Ouais.
Ou les odeurs de saucisse.
Non, ça sent mal ça.
Surtout pour avoir attendu dans la file d'attente pendant 2 heures, pour pouvoir entrer dans le salon et après tu dois attendre devant chaque
stand.
C'est
vrai, mais il y a un petit côté sympa parce que tu croises plein de gens. Tu vois dans la file, il y a des gens qui sont déguisés, tu peux discuter avec eux, tu découvres des nouvelles passions. Enfin, c'est assez toujours intéressant.
Tu peux voir Yoda, tu peux voir. Quand j'étais du coup à Montréal, on pouvait voir les Daleks. Vous savez, Docteur Who, les Daleks, les robots, les Daleks qui se balaient. Les Daleks, les Daleks. Enfin, c'était amusant.
Voilà, alors est-ce que plusieurs Comic-Con proposeront ça ou est-ce que juste la San Diego, qui est l'une des principales, permettra aux personnes d'assister à ça en télévision? Est-ce qu'il y a des événements? Qui veut ouvrir une petite journée de bal à la Comic-Con?
Le premier jour, il y a beaucoup d'ateliers sur le thème de l'éducation. Alors, je ne vais pas les détailler tous sur le site, mais des thèmes sur l'éducation, comment utiliser les comics et pourquoi pas même les séries, etc., quand tu es professeur, à quel que soit le niveau, pour apprendre les valeurs, des valeurs à tes étudiants.
Surtout que les comics, ce sont des bandes dessinées qui parlent aux étudiants. Donc déjà, pour attirer leur curiosité, c'est une très bonne chose. Après, effectivement, comme tu disais, Dominique, il faut aussi faire le lien avec l'éducation et autres. Ça peut être un bon point de repère.
Alors, est-ce que vous pensez, parce que on parle souvent de jeux de rôle, le jeu de rôle avait une vision assez négative auprès des parents. Est-ce que les comics ont une vision améliorée ou...
C'est un truc qui se transmet en général, qui se partage. Hein. J'allais dire de père en fils, parce que c'est principalement des garçons qui le mettent de plus en plus, les filles sont concernées. Mais c'est quelque chose qui se transmet, en fait, je pense, la passion des comics.
Donc, comme les mondes
de la France, c'est des collections. C'est des collections, donc forcément, tu transmets aussi une sorte de patrimoine à ton enfant où tu dis ça, c'est le premier numéro de tel magazine qu'il est sous plastique, ça vaut X dollars. Un peu à l'époque aussi des cartes de baseball. Je vois pas en France quelqu'un de 50 ans qui dit ça, c'est la première édition de Warhammer, le jeu de rôle.
Par rapport au jeu de rôle ou même au jeu de vidéo.
En bande dessinée, par contre.
En bande dessinée, oui, parents, c'est beaucoup plus light.
C'est vrai qu'en France, la bande dessinée est quand même plus répandue.
Exactement.
Mais le comic, ça.
Quand il est dans le coin de sa chambre à lire des BD, au moins il est pas à jouer sur son ordinateur.
Après, je pense que la bande dessinée est peut-être plus diversifiée en termes de sujets, de représentativité que les comics. Ou les comics. Bon, ça s'améliorait, mais c'est encore souvent le super-héros qui casse tout, qui est invincible. Bon.
40 pages, 39 pages de
base. L'égalité homme-femme dans les comics, je ne suis pas sûr qu'on y soit encore.
C'est en train de changer, et c'est justement, il y a beaucoup de sujets pendant cette Comic-Con, beaucoup de conférences qui sont dédiées à l'importance des femmes, les héroïnes féminines. Comment créer une héroïne féminine? Comment écrire un héros noir, l'émergence des héros noirs de plus en plus dans les comics, les séries, etc. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Le comics, c'est vraiment qu'un support à parler de plein de domaines. Ça a toujours reflété, de toute façon, la société autour d'eux. Les comics, ce n'était pas quelque chose de forcément centré.
Et j'ai l'impression que le comics avait commencé à descendre, si Marvel était une grande épopée comme ça, qui a fait vendre beaucoup de comics. Je pense que Walking Dead a aussi attiré un peu plus des gens qui étaient complètement...
Le cinéma et les séries ont beaucoup renfloué les caisses des éditeurs de comics, effectivement. Maintenant, après, je pense que Marvel touche 99% de son argent vient du cinéma ou voilà. Des jeux vidéo peut-être.
Et aussi, c'est qu'ils ont réussi un mélange des genres, parce que là, on parle de comics, donc de Marvel et DC Comics et des autres éditeurs indépendants. On parle de BD, on parle de séries et de films, mais tu as aussi le fait qu'ils se sont appropriés les mangas, parce que ça aussi, ça part très très bien aux États-Unis. Et il y a même un atelier pendant la Comic-Con qui est comment écrire et créer un manga. Donc vraiment, la Comic-Con balaye très large.
Il y a comic dans le nom, mais ça touche plein de domaines.
Comment tu fais vraiment la différence entre un comics et un manga?
C'est le sens de lecture.
C'est ce que j'ai dit.
Déjà, et encore.
Il dit ça sérieusement.
Ah oui. Le comic, tu lis de gauche à droite. Le manga, normalement, il est de droite à gauche.
Oui, non, mais visuellement, c'est le format. Quoi. Un manga, c'est au format poche, ce qu'on appelle classiquement. Enfin, même si au Japon, il y a beaucoup plus de formats que ça. Hein. Ça peut être au format journal, etc. Les bandes dessinées franco-belges, c'est des formats cartonnés un peu plus grands. Je dirais 4, peut-être.
Non, une cinquantaine de pages.
Et un comic, c'est vraiment très léger, il y a une quarantaine, cinquantaine de pages, c'est très fin, c'est au format plus
moitié A4, enfin un demi, pas tout à fait.
J'allais dire un tiers d'A4 parce que le A5 est trop grand.
Mais au même prix qu'un manga où tu as plus de pages, c'est ça? J'ai toujours eu l'impression que les comics te faisaient un peu pomper le fric.
C'est $3 non souvent.
Ouais, mais c'est différent. Il faut dire que le manga à l'origine, surtout au Japon, c'est quelque chose, c'est de la consommation courante. Quoi. Les gens achètent le manga le matin, ils lisent dans le métro et ils le jettent dans la poubelle en sortant du métro.
Les comics, c'était un peu la même chose au début, à part certaines œuvres de collection, oui, mais pour moi, les comics, c'est plutôt tu prends, tu lis, une fois que tu as fini, tu jettes. Alors que la bande dessinée en France.
Tu le jettes sur le pile des comics, mais tu vas peut-être pas le jeter à la poubelle non plus. Parce que... oui, c'est ça.
Alors, un autre événement, puisqu'il y a plein de conférences, est-ce qu'il y a des conférences qui vous ont marqué? Rénal, Pierre-Yves.
Moi, dans l'un des sujets, bon, ça m'a fait marrer, c'était un peu la théorie des complots et puis tout ce qui est propagande diffusée à travers les comics. Donc, ça m'a fait marrer, en fait, de voir effectivement tous ces sujets. Et récemment, je regardais une série qui s'appelait Utopia. Mmh. Et justement, c'était aussi un dessinateur de comics et toute la théorie derrière sur la destruction du monde et compagnie associée. Enfin, donc, j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est comment certains, à travers la lecture des comics, se disent, tiens, attention, c'est la théorie du complot. C'est comment les Illuminati qui veulent diriger le monde. Enfin, je trouvais le thème intéressant.
Il y a un panel avec les créateurs de la série qui sont là, de la nouvelle série, de la nouvelle saison qui doit sortir normalement.
Il serait plus simple de trouver les sujets qui n'ont pas été traités par les comics plutôt que...
L'écologie, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sujets.
Attends, il y avait pas Captain Planet.
T'as des super-héros, voire à l'époque des super-héroïnes, qui étaient justement, prenaient leur pouvoir de la flore, soit de la faune.
Aquaman et compagnie qui défendent la faune sous-marine.
Moi, je suis content parce que Kevin Smith va faire un show comme qu'il a l'art de faire avec c'est quoi le nom? An Evening with Kevin Smith. Et Kevin Smith est un peu s'est baigné dans cette culture de comics depuis son enfance, à tel point qu'il en avait fait une émission, puisqu'il avait créé même un comic book store.
Il a son propre magasin de comics dans le New Jersey.
Voilà, qui existe toujours. Par contre, l'émission qui avait tourné pendant 8-9 saisons, qui s'appelait Comic Book Men, si vous êtes fan de comics, c'est vraiment une émission à voir, mais qui est disponible uniquement sur Netflix aux États-Unis. Donc, je vous laisserai deviner comment voir ces émissions légalement.
C'est intéressant parce que vous voyez le jour, les gens qui venaient chercher des comics ou apporter des objets pour les faire évaluer. C'était très intéressant. On voit comment la culture du comics et de la science-fiction en général.
Et à quel point elle est large, puisque le comics ne s'arrête pas à Marvel ou à DC Comics. C'est beaucoup plus large. Et voilà, ça va être encore un show où on va lui poser une question. Il va tenir une heure et demie avec une question. Donc, j'ai hâte de voir un nouvel épisode.
Il faut être le premier à poser la question, en fait.
C'est ça. Par contre, tu restes une heure et demie debout à attendre qu'il ait fini de répondre.
Tu seras chez toi, donc c'est pas gênant. Le mardi, il y a le Star Trek Universe Virtual Panel.
Pas le mardi. Alors, c'est pas possible.
Le mardi, le deuxième jour, pardon. Donc
le jeudi.
Le jeudi, oui. C'est à 10h du matin aux États-Unis. Et alors là, c'est la totale, surtout les séries en cours, les séries passées. Il y aura plein de comédiens des séries qui seront là. Une bonne partie du cast de la série Star Trek Discovery avec la nouvelle saison qui arrive. Il y aura Michel Yeo, par exemple, qui sera là. Énormément de comédiens qui seront là. Mais aussi Patrick Stewart qui sera là pour la série qui vient de commencé il y a quelques semaines, quelques mois, depuis Star Trek Picard. Il sera
pas
là.
Picard, attention.
C'est Picard, hein, puisque c'est un personnage français à l'origine. on dit Picard aux États-Unis, avec Patrick Stewart qui sera là et d'autres membres du cast. Donc il y aura du très lourd et qui pourront, j'imagine, répondre aux questions des gens si c'est interactif et parler de leur projet et de la saison.
Et vu l'actualité, de noir, ça va être le même jour, mais il y aura aussi un sujet sur survivre à une pandémie. Donc, c'est vraiment
l'actualité. L'histoire de zombies, que ce soit en série ou en comics, sur les invasions de zombies.
Alors, les zombies sont-ils immunisés au Covid-19 ?
Bonne question.
Je pense qu'ils s'en foutent, surtout.
Même réponse que François.
Alors, qu'est-ce qui est mieux ? Vous vous réveillez le lendemain matin et voilà, il n'y a presque plus personne sur Terre. Est-ce que vous préférez qu'il y ait une sorte de comète et que vous êtes le seul, ou est-ce que vous préférez qu'il y ait quelques zombies histoire d'avoir un peu de fun de temps en temps?
Donc là, tu dis, est-ce qu'on prend notre expérience de la série Last Man on Earth ou est-ce qu'on prend notre expérience de la série Walking Dead, c'est ça?
Perso, Walking Dead.
Mais... pareil. Au moins qu'il y ait un peu de suspense, quoi. Est-ce que tu te réveilleras demain matin? On ne sait pas.
Est-ce que tu peux faire le pourri et puis balancer tes potes, c'est ça?
Aussi, ouais.
Si tu as des potes, et s'ils ne sont pas zombies. Alors, on va peut-être s'écouter un petit peu de musique.
On ne va pas faire tout le programme d'un coup, on va en laisser un petit peu pour le reste de l'émission.
Il y a beaucoup d'artistes qui, pendant ce confinement, se sont dit « Tiens, c'est peut-être l'occasion de bosser un peu, puisque je ne peux plus faire de tournée, d'aller dans les bars, etc. » Et par respect pour l'auditeur, nous ne parlerons pas,
quoi,
je vous le dis,
de Renaud.
De Renaud. Voilà. Ce passage musical passera sous silence dans notre émission, malgré que ça rentre dans nos albums et découvertes
là,
habituels.
Ouais, mais là, il y a des limites quand même.
Et nous invitons quand même les auditeurs à aller regarder par
non, non, non,
on
non même pas.
Éviter.
Si vous voulez vous préserver un peu, faites une coupure de Renaud.
Il ne faut pas l'encourager à en faire, à continuer.
Oui, parce que ça sera quoi le prochain?
Non, il ne faut pas.
On va parler d'un autre artiste français, cette fois-ci, Tété, hein, ne pas confondre avec Bernard Peur, ce que je fais depuis le début de l'émission, mais il a, pendant le confinement, fait plusieurs titres avec les internautes, et il a proposé de faire des reprises en disant aux gens, voilà, si vous savez jouer d'un instrument, jouez, moi je vais chanter avec vous. Et suite à ça, il a décidé, vu que ça marchait bien, de faire un projet participatif, puisque les gens ont pu, sur Ulule, si je ne me trompe pas, donner de l'argent pour qu'ils fassent un album studio. Alors, combien coûte un album de Tété? De souvenir, on est aux alentours de 200 000 euros de demande minimum pour créer l'album.
D'accord. Oui, quand même.
Location des studios,
je vais quand même vérifier, parce que là, vous me donnez...
des musiciens, etc.
Non, mais enfin, j'ai un doute. Je ne suis pas vraiment surpris que ça coûte aussi cher. Quoi, mais...
moi, j'aurais dit même plus.
Parce qu'après, il faut presser les albums ou mettre...
Alors, on ne parle pas de presser les albums du tout, là. Hein. On parle juste de faire un album avec de bons micros et de reprendre un peu...
Parce qu'après, tu ajoutes le budget pour la communication, la pub...
Ça lui suffit.
Ouais.
Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que dès qu'il y a un album de reprise qui tourne, il faut qu'on en parle.
Oui, oui.
Alors,
j'ai retrouvé la page. Alors, il avait demandé, il avait fixé un budget, comme sur tous les projets participatifs, de 20 000 euros.
Ah, c'est 20 000. Et tu me rassures.
Voilà, il a collecté près de 34 000 euros.
Voilà. 20 000 euros, c'est quand même, je trouve, beaucoup pour faire un album. Après, peut-être qu'il le fait dans de bonnes conditions.
Ils n'ont pas tellement utilisé ce système pour financer forcément l'album, puisqu'il aurait pu le faire lui-même à terme. Mais c'est surtout pour voir si le public était prêt et puis permettre aux gens d'aussi participer. Parce que quand c'est aussi un moyen de précommande. Parce que quand tu sais que, je ne sais pas combien coûte l'album, mettons que ça soit 10 euros, si chacun met 10 euros, c'est-à-dire 33 000, tu as plus de 3 000 personnes, tu sais que ça fait déjà des albums vendus, en plus de ceux qui éventuellement vont venir en magasin.
Et en fonction des stretch goals, c'est plus de chansons, de meilleure qualité, c'est quoi?
Je sais pas s'ils avaient
c'est
mis
plus de merci.
Il n'y a pas forcément de stretch goal. Hein. Puis tu peux avoir ton nom dans l'album, c'est pas mal.
Alors oui, tu as ton nom dans ton album, mais le paradoxe, c'est qu'il a fait ça avec les internautes et qu'il finit par le faire tout seul avec l'argent des internautes. Voilà.
Mais ils ont pu choisir peut-être les titres.
C'est ça. Alors, un des premiers titres qu'on va s'écouter ensemble, et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire dans ces dernières émissions enregistrées, c'est d'écouter de la musique ensemble.
On peut parler
dessus. Alors, j'essaie de lancer la musique. Oh, la technique, ça revient comme le vélo.
Faut deviner.
Your own personal Jesus.
Dépêche Mode, effectivement.
Prayers, someone who cares.
Alors il faut avouer qu'on était venu pour se moquer de Tété et qu'en fait, en écoutant quelques previews d'albums, on s'est dit c'est pas mal.
Déjà, il a bon, au niveau des, il avait, en fait, lui, il avait fait des chansons, des reprises comme ça en confinement pour partager, etc. Et il en avait 24, c'est ça. Il en avait posté 24 et donc dans l'album, il en a 10-12 qui vont être, qui ont été, peut-être que le public qui a participé a choisi les 10 ou 12 qui vont être gardés. Et quand tu vois la liste des 24, il y a du très lourd quoi. Il n'y a pas les Chacha des inconnus ou des trucs trop populaires. Donc effectivement il y avait des paliers. Donc si le palier de 20 000 était à 1, il enregistrait l'album solo acoustique et il pressait un minimum 1000 CD. Et sur le prix de ces CD, il y a quand même 5 euros qui étaient reversés à la PHP. Donc c'est pas uniquement voilà, c'est
bien.
Et comme il a atteint l'album des 30 000 euros, le palier de 30 000, il fait la même chose, mais en plus, il a invité des musiciens qui, eux, avaient contribué à un projet participatif aussi sur les réseaux sociaux. Donc, même des musiciens, pas forcément des musiciens connus que lui connaissait, mais peut-être des musiciens qui avaient participé, des gens du public qui venaient participer en tant que musiciens à l'album. François, t'aurais pu tenter ta chance.
La prochaine fois.
La prochaine fois.
Moi, j'attends Renaud.
Si tu payes 10 000, peut-être que...
J'ai toujours aimé les spectacles de marionnettes. Donc.
Et donc, les deux derniers paliers qui n'ont pas été atteints, mais on ne sait jamais, ça peut en venir, c'était produire deux clips en plus du clip et des musiciens invités. Et à 50 000, ils faisaient un concert privé pour les contributeurs.
Ah
voilà. François, pour 5 000 de plus, donc tu as la vidéo. Tu passes sur la vidéo.
C'est quand même difficile de faire des concerts en ce moment. Hein. Il y a plusieurs se tentent l'aventure.
Ah, c'est délicat, ça complique.
Il ne faut pas que les gens bougent. C'est un peu compliqué.
Oui, ça complique les gens pour les organisateurs, les propriétaires de salles.
Et il faut que ce soit rentable aussi.
Oui, parce que des fois, laisser une salle inoccupée, ça coûte moins cher que de faire venir des gens, puisqu'il faut payer la sécurité, etc. etc. Donc ça peut être moins. Tu peux perdre moins d'argent en laissant la salle fermée quand nous.
Est-ce que comme la Comic Con, faudrait pas faire des concerts vidéo?
Bon, y en a.
Où les salles de concert investissent sur un système vidéo avec un système un peu comme Twitch où les gens peuvent parler. Et limite, si tu payes, on peut t'entendre crier ouais. Je donne des idées là. Hein.
Tu peux même monter sur scène avec un hologramme virtuel sur scène. Ah, ça peut être sympa. Je suis sûr qu'il y a des gens qui paieraient. Bah, c'est un petit peu ce qui s'était fait dans les concerts de groupes coréens dont on avait parlé quoi. On voyait un mur derrière, mais que ça soit un mur vide ou un décor, tu avais des murs où chaque petite case représentait un des fans qui était en train de regarder le concert via sa webcam. Ça peut être sympa, quoi.
Et justement, excuse-moi Pierre-Yves, mais juste pour rebondir sur ce que dit Dom, les producteurs et de ces groupes de musique qui faisaient leur tournée prévoyaient justement de continuer à faire ce type de concert plutôt que de revenir à un concert habituel, ne serait-ce que par économie, justement pour tout ce qui est salle et compagnie. Là, ils ont, pour le même prix des places, ils ont un plus à gagner qui est énorme.
Et la fois d'avant, Renal, tu nous avais parlé du public qui était dans les jeux de foot et compagnie, du coup, qui était utilisé pour les vrais matchs de foot, en fait.
Les faux matchs de foot.
Ouais, les faux matchs de foot.
Les matchs de foot sans public, où on mettait du faux public.
Voilà. Pour faire le bout de fond. Et là, il pourrait peut-être faire pareil avec ce coup-ci le public.
Ça te verrait.
Directement. Le public numérique.
C'est pas pareil.
Ils le font bien pour les pubs.
Allez, je vous propose d'enchaîner. On reparlera de quelques événements de la Comic Con, mais je vous propose de faire un autre petit parallèle. Et cette fois-ci, en partant dans le jeu vidéo. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression que la télé-réalité commence à reprendre quelques couleurs, et notamment grâce à des plateformes de streaming telles que Netflix, qui s'est lancée dans l'aventure de la télé-réalité.
Ça coûte pas cher, et puis ça marche. Hein.
Malheureusement, ça marche.
Hélas.
Et ici, ça va être une télé-réalité liée aux jeux vidéo. Puisque. Effectivement. Oui. Comment il spoil ? Je voulais mettre un peu de suspense.
Voilà.
Et oui, c'est les Sims qui auront droit à leur émission de télé-réalité. Alors, ça va se passer d'une. j'ai cru qu'on allait voir des gens et puis qu'on allait, on allait les piloter comme des Sims.
J'ai
non,
cru que
c'est
c'était
pas
ça un petit
ça.
Peu. Je pensais que c'était des gens qui allaient se déguiser en Sims dans des décors qui ressemblent à des Sims et puis qui allaient jouer avec leur langage bizarre, etc. Non, non. C'est une télé-réalité un petit peu classique à la façon des concours de cuisine qu'il y a en ligne, enfin, je sais pas, Top Chef, etc. En fait, il y a des concurrents qui sont invités, qui sont des gros joueurs de Sims, des créateurs de contenu qui, des fois, ils viennent du monde entier, hein, qui ont leur propre chaîne, qui connaissent bien les jeux des Sims depuis le début et qui ont l'habitude, qui sont déjà des créateurs. On les répartit en équipe et on leur donne des challenges. Par exemple, ils ont 2 heures, donc le temps d'un épisode, ils ont 2 heures pour créer des personnages, des décors et une histoire. Enfin, il faut que ça raconte quelque chose. Tu vas pas juste devoir. Il recrée une espèce de série en 3D virtuelle en utilisant le jeu comme moteur graphique, j'ai envie de dire, pour raconter des histoires. Et le jury va juger, leur donner des notes. Donc la série est déjà commencée. Ça a commencé ce vendredi ou ce samedi, le 17 juillet. C'est ça, vendredi. Et il va y avoir, je ne sais pas combien il y a d'épisodes, il y a déjà 2 épisodes qui ont été diffusés au moins, on peut les retrouver.
C'est quoi son nom ?
C'est The Sims Sparked, S-Spark, avec un D plus loin. Et il y a un juré constitué de gens du jeu vidéo, des créateurs, des comédiens, etc., qui sont des joueurs de Sims eux aussi à la base, et qui vont juger. Alors j'ai vu le début, j'ai regardé, c'est insupportable, hein, alors j'ai regardé le début de l'émission, du premier pilote, et en fait il y a les concurrents qui arrivent, et on leur attribue des rôles au hasard pour la première épreuve, ils doivent piocher dans un sac, donc il va y avoir 3 ou 4 équipes, avec chacun une couleur, et dans chaque équipe de 3, il y aura un designer, qui sera chargé de créer des personnages, un designer pour créer le décor, la maison, etc., en utilisant tous les composants du jeu, et un autre qui va devoir raconter l'histoire. Sauf qu'ils tirent leur rôle au hasard, donc ils travaillent en synchronisation.
C'est une sorte de game jam.
Il y a 4 équipes, ouais, et à la fin de l'épisode...
J'y pensais justement.
Ouais. À la fin, il y a une équipe qui est éliminée. Sauf que je vais spoiler, mais apparemment, ils ont tous été si bluffants qu'ils vont devoir regarder les 4 équipes pour le deuxième. Pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a du suspense, j'ai envie de regarder maintenant. C'est terrible. Bon, c'est les Sims, il faut aimer.
Moi, j'aurais plutôt préféré qu'en fait, ils mettent les gens dans une maison et qu'en fait, oui, le public vote pour dire tiens, nous, on a envie de les voir faire ça ou bien les voir faire ça, tout ça. Puis en fonction de.
Ça va peut-être donner des idées. Hein.
Ça sera peut-être plus marrant, je pense.
Mais alors là, si vous êtes fan de Sims, vous allez adorer. Surtout, vous allez comprendre tout ce dont les gens parlent, parce que c'est insupportable.
Et ça me fait marrer, parce que je lisais une revue là, qui était un canard PC, mais donc une introspective sur les années 2000. Mm-hmm. Et en fait, le premier jeu, les Sims, est sorti au début des années 2000.
C'est fou.
Et à l'époque, du coup, le journaliste de Canard PC avait dit « C'est quoi ce truc ? Ça sert strictement à rien, c'est nul. »
Mais ça, c'est fou.
Et en fait, le vendeur avait rigolé en disant mais ma femme, arrête pas de passer du temps là-dessus, vous allez voir, ça va cartonner. »
Ça fait 3 jours, j'ai pas vu ma femme d'ailleurs.
Et effectivement, ça cartonne. Et c'est aussi peut-être une chance, je veux dire, pour le jeu vidéo, parce que du coup, il s'est ouvert à un autre public, notamment le public plutôt féminin. Et ça a permis aussi, après, avec les consoles aussi, et ça a permis peut-être de faire durer plus longtemps le jeu vidéo.
Je suis d'accord avec toi, ça a permis d'élargir un peu le spectre des joueurs, même si les joueurs ne s'entendent pas entre eux. Hein. Tu ne verras rarement un joueur.
Oh là là.
Tu verras rarement un joueur de Quake avec un joueur de Sims, par exemple.
Ah, j'ai cru que tu allais dire Unreal.
Si, mais j'aurais mal pour le joueur de Sims, en fait.
Ouais, en fait, mais je suis sûr que les mecs qui jouent à Quake, Counter-Strike, etc., quand ils rentrent le soir chez eux, quand leurs copains sont pas là, ils jouent aux Sims. Hein.
Secrètement.
Et oui, quand t'es joueur à jeux vidéo, tu testes tout, en fait. C'est ça. Le moindre jeu, le moindre pixel qui bouge sur un écran, t'es accro, quoi.
Non, je suis pas sûr.
Se cachent pour regarder des vidéos érotiques, il y en a d'autres qui se cachent pour jouer aux Sims.
Voire qui font des vidéos érotiques en Sims. Il y en a, peut-être que ça sera dans un des challenges. Le challenge actuel de l'épisode sur l'émission, c'est Destination Wedding. Donc tu vas devoir créer une espèce de mariage idéal, peut-être. C'est un challenge, même quand tu connais bien le jeu. C'est pas...
En fait, c'est des challenges qui existent déjà dans d'autres émissions de télé-réalité, mais cette fois-ci, on les fait en jeu vidéo.
Ça coûte moins cher. Comme dans les épreuves de cuisine, t'as pas besoin, tu sais que tu vas pas acheter la moitié des ingrédients. Tu gaspilles pas de nourriture. Là, c'est que des pixels.
Est-ce qu'on peut appeler ça de l'e-sport ?
J'avoue que quand ils ont 2 heures...
Est-ce qu'on peut insulter les joueurs d'e-sport pendant 20
secondes ? Tu les as bien insultés, là.
Quand tu regardes la bande-annonce, tu peux peut-être passer un bout de la bande-annonce, hein, en fond. Quand tu regardes la bande-annonce, c'est physique. J'avoue, c'est pas ils n'ont pas des looks d'athlètes, les joueurs de Sims. C'est pas vraiment le genre.
Mais le golf est un sport, hein, et ils n'ont pas tous des joueurs d'athlètes.
Mais ils ont 2 heures pour tout créer, donc c'est de la rapidité, enfin c'est vraiment une épreuve, enfin c'est physique, tu cliques à la souris, mais faut aller très vite, quoi, enfin c'est vraiment il y a de la tension.
A creative competition where you design characters.
All these your best friends.
Build anything you can imagine.
You have everything?
No.
And tell original stories using
plus,
the Sims.
Plus, tu fais des histoires.
Fais des histoires, c'est vraiment le but.
On a la musique de télé-réalité, on a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients sont là.
Tout est orchestré, mis en scène comme de la télé-réalité avec des suspens. J'imagine que quand ils vont dévoiler le rôle, le gagnant, il va y avoir une tension et un gros plan sur tous les visages. Est-ce que c'est moi ? Et puis après, des gens qui vont se tomber dans les bras, mais c'est ça, mais c'est vraiment ça.
Alors, juste, est-ce qu'il y a l'épreuve du feu aussi ou comment ça s'appelle ?
Peut-être.
Dans les films, on ne sait pas.
L'avantage, c'est que dans le jeu, vu qu'on parle d'un jeu vidéo, tu as plus de possibilités quand même. On parle d'émission de TRT. Tout à l'heure, je parlais d'une émission de TRT de Netflix, c'est The Circle, qui se base un peu sur les réseaux sociaux. Donc, les gens sont chacun dans une chambre et se jugent par rapport à un réseau social et vont décider d'éliminer quelqu'un, sachant qu'il y a des personnes qui ne sont pas la personne qui prétend être. Ce qui est assez sympa. Est-ce qu'il y a des télé-réalités que vous regardez ?
Jamais. Enfin, non, franchement. Non,
plus du tout.
Est-ce que c'est de la télé-réalité ?
Non.
Voilà. Enfin, non,
il n'y en a aucune, vous tombez devant, vous dites. Allez.
Non, c'est pas tellement le thème qui me dérange, etc., mais c'est ou les candidats, mais c'est mise en scène à chaque fois, les effets de caméra, les longueurs, les gros plans. Tu sais que, mon Dieu, je sais pas, le truc où il y a Etchebetch, je sais quoi, c'est Top Chef, c'est ça.
C'est vrai que je regarde.
Puis tu attends. Tu sens qu'il y a un montage derrière, et ça dure 30 secondes, alors que dans la réalité, ça a peut-être duré 5 secondes, il lui a donné le papier, t'es gagné ou pas. Mais là, non, il y a de la mise en scène, il faut qu'il lui... T'es en phase, alors donne-lui pas une enveloppe, donne-lui simplement le
truc. Non, mais ça, c'est vrai.
La
c'est
seule que je supporte, c'est... C'est con, c'est la meilleure boulangerie de France. Mais parce que, même pas parce que c'est autour du pain, mais c'est parce que c'est une des émissions, je trouve, où il y a moins le montage. On est dans la réalité, on va chez les gens, etc. Tu vas visiter, tu peux pas tricher, tu peux pas faire d'effet de caméra ou de zoom ou de drone qui font des quarts de tour en l'air. Non, tu filmes simplement des gens, des boulangers, et puis ils présentent. Il y a très très peu de mise en scène, ça va. C'est la seule que je trouve après, un peu intéressante. En plus, t'apprends des trucs.
Je comprends aussi que pour garder le public, pour passer de la pub, pour que les gens restent derrière la télé,
tout est calculé pour bien placer la pub au bon moment.
Oui, c'est malheureusement.
Une émission moi que j'avais appréciée, c'était Face Off. Une émission de télé-réalité où ils font des costumes pour les films. Mais les costumes à l'ancienne, donc ils modèlent sur le mannequin, ils peignent sur lui, et à la fin ils font des monstres aquatiques ou autres.
C'est pas évident parce que contrairement aux émissions de cuisine, quand tu regardes une émission de cuisine, tu vois, quelle que soit l'émission Top Chef ou autre, tu vois quelqu'un faire un plat et tu le vois le faire en direct, tu dis « Ah, c'est peut-être ça te donne envie de faire de la cuisine », ce qui marche à fond d'ailleurs. Hein, les écoles de cuisine n'ont jamais aussi marché, ni autant de candidatures, c'est impressionnant. Mais tu dis, ce truc-là, je peux le faire. Donc tu vas sur Internet, tu prends la recette, tu peux essayer chez toi. Autant un créateur de costumes de montres, je peux le faire aussi. Je ne vais pas les regarder dans mon
cœur.
Voilà, c'est un petit peu le défaut, peut-être.
Mais là, du coup, il note le costume et regarde celui qui a le meilleur costume reste dans l'émission.
C'est ça, donc chacun a 3 jours pour fabriquer un costume. Mais tu dois modeler. Ensuite, tu fais un moule sur lequel tu extrais. Les termes techniques, oubliez-moi. Mais c'est une émission assez sympa, Face Off, à regarder, mais qui n'est pas très, très connue, puisqu'elle est diffusée principalement
puis les candidats,
aux États-Unis.
C'est comme les trucs de tatou, quoi. Tu ne peux pas t'y lancer. Ça peut être...
Alors, est-ce que tu as vu les émissions de tatou où tu dois faire un tatou pour un de tes copains, mais tu lui fais un peu une vacherie et puis tu dois
le rattraper.
C'est toi qui fais. Tu dessines le tatou de l'autre et l'autre dessine le tatou que tu vas avoir. Ouais, mais les gens se font des crasses et tu te retrouves avec des trucs affreux sur la jambe.
Ça limite parce que ça peut donner quelqu'un qui regarde, va donner envie de se faire un tatou alors qu'il n'avait pas forcément.
Non, là, ça ne te donne pas du tout envie de faire un tatouage.
Autant l'émission avec le costume. Si un gamin qui regarde, il dit je vais devenir créateur de costume, il va très vite être calmé. Quand il va regarder son argent de poche. Ou il regarde une émission de cuisine, il va peut-être aller foutre un peu le bordel dans la cuisine, mettre de la farine partout. Mais c'est tout, ça va s'arrêter là, quoi. Mais là, le tatouage, c'est peut-être... Faut vraiment qu'il y ait de l'éducation derrière, qu'il y ait un message. J'imagine qu'il y a un message avant, au début et à la fin de chaque émission, disant le tatouage, c'est sérieux.
Pas du tout.
Les scènes dans les piscines sont quand même plus faciles à comprendre.
Peut-être. Alors, on...
Très, très vieille référence.
On a étendu le sujet de télé-réalité qui n'était pas du tout
dans tous les sens.
Et on a dit passer un quart d'heure quand même, alors que personne ne regarde.
Pour retrouver l'émission sur les Sims, soit le site des Chronicarts qui possède le... Mais sinon sur la chaîne YouTube de The Sims, tout simplement, vous avez les épisodes qui sont disponibles. Alors c'est en anglais, Mais de toute façon, vu le niveau de vocabulaire des candidats...
Ça ne doit pas être très difficile à comprendre. Alors, est-ce qu'il y a un autre événement de Comic-Con dont vous souhaitez parler ?
Alors, il y a le vendredi, un petit atelier, justement, sur le chef-d'œuvre que George Romero a fait de ses zombies. C'est lui qui a inventé à peu près le zombie qu'on le connaît au niveau européen. Et il n'a pas réussi à tout finir. Il y a eu des histoires qu'il n'a pas terminées. Et il y a un écrivain qui est Daniel Cross, qui est co-auteur d'un livre qui essaye de terminer le chef-d'œuvre de Romero, et qui est donc co-auteur avec le réalisateur Guillermo del Toro. Ils ont été voir la veuve de Romero pour avoir le maximum d'informations, et ils ont pu finir le livre The Living Dead, New Novel, George A. Romero et Daniel Cross. Et donc là, c'est un atelier où ils vont pouvoir parler du livre, de l'héritage de George Romero dans cette nouvelle, dans ce livre, et de voir comment ça a pu évoluer suite à son chef-d'œuvre de départ, de ses films, de ses écrits et de tout ce qu'il a pu faire.
Pour ma part, je suis un peu en froid avec Romero, pour la simple raison qu'il
avait... T'as pas de goût, c'est tout.
Non, je critique pas ce qu'il a fait dans sa carrière. Mais il avait participé à un jeu vidéo sur Steam qui s'appelait Romero Aftermath.
Est-ce qu'il avait vraiment participé ?
Il a mis son nom.
Voilà, mais je m'en fous. Si tu mets ton nom et que tu prends le chèque, t'assumes les conséquences derrière. Et c'est ce que j'appelle les jeux de zombies hold-up où on sort un jeu qui n'est pas fini en te promettant qu'on va le finir. Et en fait, on le finit, mais dans un autre jeu. Donc tu dois racheter un autre jeu qui n'est pas encore totalement terminé. Donc tu vas en racheter un. Si vous connaissez les jeux de zombies, vous savez exactement de quoi je parle. Et Romero Aftermath, même s'il y avait de bonnes idées dans ce jeu, n'était pas fini. Et voilà.
Pourtant, il n'y a pas tellement de jeux poubelles sur Steam. Hein, pas trop. Hein.
J'aimerais bien voir le ratio des jeux
80-20
joués. 80-20 et... Non, je pense que tu as 3% des jeux qui sont joués, 97% qui ne le sont pas.
Quand je disais 80-20, c'était 80% de jeux non terminés, effectivement.
Oui, malheureusement, ouais, Steam, une grosse bibliothèque pour pas grand-chose. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un autre salon spécialisé dans le jeu vidéo ?
Ah oui, la transition.
Oui.
En fait, j'étais assez surpris, on parlait de Steam, j'étais assez surpris en lançant mon Steam et puis en regardant si j'avais des mises à jour sur ma grande bibliothèque de jeux non terminée et pas à jour.
Et des fois même pas commencé.
On me proposait un jeu gratuit, je dis ouais bien sûr, mais un jeu gratuit assez énorme qui faisait plusieurs gigas. Je dis voilà, c'est quoi cette arnaque. Et c'est un jeu qui s'appelle Devolverland Expo. En sachant que Devolver, c'est le nom d'un éditeur de jeux vidéo plus ou moins connu.
Ah, ils ont fait d'excellents jeux.
Et ils ont fait, plutôt que de... Bah, effectivement, comme on le dit, les salons de jeux sont fermés, enfin les conventions. Et ils ont fait leur propre version, une façon originale de visiter un salon de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont fait un jeu vidéo que tu installes, tu joues, tu lances le personnage... Et tu visites l'expérience. En fait, j'ai lancé le jeu, je l'ai installé, j'ai lancé, et tu te retrouves dans le noir devant un salon du jeu qui est fermé la nuit. T'as rien, et tu avances, et tu as un objectif, c'est entrer dans le salon. Donc tu réussis à entrer, et on te donne comme objectif de te promener dans le. Mais c'est vraiment, ils ont reconstitué tout le salon. Tout le dôme, enfin le salon d'exposition avec tous les booths, les stands de chaque éditeur, de chaque jeu qui sont là, et tu dois visiter. Mais ils en ont fait un jeu en fait. Mais c'est pas juste, tu déplaces ton personnage et tu visites façon Sims ou autre, et tu cliques sur un endroit pour avoir des informations sur tel ou tel jeu. Non, tu joues un personnage, il y a des robots de surveillance qui sont là et qui te poursuivent, et tu dois les éviter, donc tu dois te cacher, tu dois trouver les machins. Il y a un moyen de les assommer, je ne vais pas le dire. Il y a un moyen de les assommer, mais je ne vais pas dire comment, je ne vais pas spoiler. Et tu as comme objectif de visiter tous les différents stands des éditeurs et de présenter. Quand tu entres dans un stand qui est fait, ce n'est pas juste un temps de statique. Hein. Par exemple, il y a un des jeux qui s'appelle Carrion, dont tu vas sans doute nous parler. C'est un jeu où tu joues une créature qui doit un petit peu absorber qui doit attaquer les autres, un petit peu à la façon des aliens, attaquer les créatures. Et je me suis approché du stand et il y avait un robot devant moi, donc je me cachais. Puis le robot s'est fait attraper par une créature et déchiqueté. Je dois entrer dans le stand. Donc j'étais vraiment pris.
Je vais
peut-être
aller voir un autre stand, du coup.
Et donc, j'hésitais. Est-ce que je dois montrer ? Enfin, vraiment, c'est assez interactif. Il y a de la musique, il y a des sons. Tu entends les voix des annonceurs. Et quand tu approches des bornes, en plus, il y a des objets cachés à ramasser un petit peu partout. Tu as une liste d'objets à cacher à ramasser. Donc, tu fouilles sous la façon d'un jeu. un salon du jeu qui n'existe pas, qui est virtuel.
C'est financé par Pokémon, alors.
C'est très bien fait.
Et tu es allé jusqu'au stand Devolver, du coup?
J'ai fait le début. Devolver, en fait, ils font tous les... Enfin, chaque éditeur a son propre stand, mais c'est très bien fait. Et à chaque fois que tu arrives, tu peux voir une bande-annonce assez développée, une annonce du jeu qui a été présentée normalement sur le salon.
Alors, vu que tu parles de Carrion, c'est un jeu qui sortira le 23 juillet, donc sous peu. Il sera disponible sur Steam, Xbox et Nintendo Switch. C'est proposé par Phobia Game Studio.
Encore un jeu en vieux pixel.
Et c'est ça, un jeu d'esprit 2D. Et moi qui m'a directement transposé dans l'univers de Flashback ou d'Another World, ouais. Pour les connaisseurs du genre.
Infernal Runner, encore un vieux jeu, encore plus. Parce que...
Mais rien que dans la façon dont les persos bougent, dans le décor, comment est-ce qu'il est aligné, on est vraiment sur un Flashback.
Les premiers Prince of Persia, tout au début.
Prince of Persia, exactement aussi, oui, où tu dois placer. Au millimètre près, tu dois sauter et si tu rates, tu tombes.
Et qu'est-ce qu'il y a d'original dans ce jeu qui a l'air identique à ce qu'on a pu voir? Non, vous jouez pas un
méchant,
héros.
Tu ne commences pas dans une prison.
Tu es le méchant.
Non, vous êtes le gros méchant, mais vous n'êtes pas n'importe quel méchant. Vous êêtes un monstre complètement infect.
Une espèce de parasite.
Un blob.
C'est mystérieux.
C'est ça, un blob assez effrayant. Et d'ailleurs, ça a dû te faire peur une fois que tu as vu cette créature surgir.
Dans le jeu Devolver, quand tu te promènes, tu as la créature qui est au plafond, qui est, donc je n'osais pas avancer. C'est très bien fait.
J'en profite, puisqu'on cite la Comic-Con, on cite cet événement de jeux vidéo. Si vous voulez retrouver toutes les informations, c'est sur le site Heureusement en France, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vous ont marqué? Moi, personnellement, j'ai vu ce jeu unique, puisque c'est encore une suite. Hein, c'est principalement ce qu'on voit malheureusement dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est Shadow Warrior 3. On est sur un FPS style samouraï, assez bourrin, où vous allez avoir des monstres assez fantastiques. Par contre, lorsque vous voyez le game design des monstres, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et je pense qu'un des jeux qui va faire le plus parler de lui... Alors, est-ce que ça sera en bien ou en mal? C'est Serious Sam 4 qui va proposer un quatrième opus. Alors, je pense qu'on a tout joué au premier, voire au deuxième. On y a même joué en multijoueur. On a passé des nuits à taper du mob jusqu'à n'en plus finir.
À l'époque, des jeux en LAN, mais les vrais LAN dans la même salle.
Donc ici, on promet de nouveau d'avoir...
Encore plus de monstres, encore plus d'armes. Ouais, super. Qu'est-ce que je te dise.
S'ils ont gardé le côté déconneur des premiers opus, moi je suis partant.
C'était ça le plus marrant. Ça changeait des Dooms, effectivement.
Tous les niveaux secrets, tous les petits secrets. Des fois, tu avais 15-20 secrets par niveau à trouver.
Et les bi-boss, énormes.
C'est ça. Plus gros que tous les mêmes points.
Plus gros que les pyramides.
Exactement. C'est un conseil que je peux donner aux éditeurs de jeux. Le vendredi matin à 10h, Pixel Stories, réimaginer, alors attends, je vais le faire en français, réimaginer la narration des jeux vidéo. C'est à la Comic-Con. Ils ont qu'à aller voir ça. Ils auront peut-être des nouvelles idées pour leur futur jeu au lieu de refaire des suites et des copies de jeux.
C'est vrai, malheureusement. Il y aura quand même quelques jeux uniques, tels que Olija, Weird West, qui sera un peu un genre 2D dans le Far West, qui a l'air d'être sympa.
Fait par une équipe de Français.
Blightbound. Et un nouveau jeu, alors je dis nouveau, c'est Fall Guys, mais c'est du déjà vu, un party game où vous allez devoir un peu comme dans Interville.
Le jeu des vachettes.
Où les jeux où vous devez courir sur un trajet sans tomber. Ben voilà, là, vous allez jouer à 100 et avec des persos complètement incontrôlables, donc ça risque d'être sympathique.
Ah, tu parles d'Interville, là, fallait pas dire ça.
C'était le mot mystère de la soirée.
On a appris il y a deux jours, malheureusement, que Rosa était morte. Vous vous souvenez de Rosa, la vachette la plus célèbre d'Interville? Ah là là, elle avait pris sa retraite dans son champ, tranquillement. Et malheureusement, elle est morte de sa belle mort il y a deux jours.
J'ai cru que tu allais plutôt nous parler du décès d'Ennio Morricone ou des choses comme ça.
Non, Rosa quand même. Dans mon enfant, j'étais plus marqué par Rosa la vachette que par Ennio Morricone. Je n'avais pas encore le droit de regarder les films de Morricone.
Mais par contre, il y a un site où vous pouvez enchérir pour avoir une côtelette de Rosa.
Je ne suis pas sûr.
Au Burger King,
impossible.
Du coin.
Je ne sais pas. Voilà. On lui dédie cette émission, je pense.
Le temps défile et on avait promis à Tété de passer trois albums. Je vous propose d'écouter tout doucement, tout en discutant, si vous voulez, Lean on Me.
Sometimes in our lives we all have pain.
c'est une chanson de Bill Withers.
Il nous a quitté il y a quelques semaines, malheureusement. Il a bon goût cet été. We know that there's always tomorrow.
Lean on me when you're not strong. Un album de Tété pour l'été, c'est bien.
Ah, tu attends et Philip Winter pour cet hiver, c'est ça? Hey, tu imagines? Un album de duo entre Tété ou Willy Winter, April Lavigne. Enfin bon, on va pas tout la faire, ça va pas arriver.
Comment ça s'appelle son album d'ailleurs? Tu l'as pas dit.
Tété va faire un duo avec Donna Summer.
Oh, pas mal. Ça s'appelle Télé X Album, album de reprise.
Voilà, il dévoile des chansons au fur et à mesure. À mon avis, une fois l'album complet, on aura droit d'aller dans les marchands appropriés pour s'acheter une version de CD, puisque plus personne n'utilise de CD maintenant.
Une version numérique, tu veux dire.
Je pense qu'on va bientôt vendre plus de vinyles qu'on ne vend de CD.
Pas faux.
Vivement le retour des cassettes.
Mais Dom, tu as déjà ressorti ton lecteur de cassettes.
Ah, mon Walkman, je crois qu'il est un peu mort.
Marche-t-il encore? Oui, c'est pas évident.
Ah non, moi je préconise 2021, ça sera l'année du mini-disque.
Ouh, ouais. T'as pas peur, toi.
Non, mais j'en ai tellement à écouler.
Et les cassettes, les données sur les cassettes sont-elles encore de bonne qualité? Ça, c'est pas gagné non plus.
Bon, tu les as stockées, il y a pire. Mais c'est bien quand c'est un peu altéré, justement. Donc, je sais même pas si l'album, effectivement, tu poses la question, a déjà un titre parce qu'il est en cours de production.
Ah oui, il n'est pas encore sorti.
Et vous pouvez toujours aller sur le Ulule, donc Ulule. Je regarde si j'ai encore. Sur Ulule.com, en cherchant TP. Vous avez son projet et on peut encore participer parce que même si le projet est financé, on peut toujours normalement encore participer pour commander son album.
Et du afterback.
5 euros qui seront reversés à la BHP sur chaque album.
À noter quand même que Tété a fait un album qui s'appelle Le Sacre des Lemmings.
Ah, peut-être un passionné de jeux vidéo,
oui.
Forcément.
Petit souvenir pour le jeu qui s'appelait Lemmings.
Allez, il est 18h47, vous êtes sur Radio Campus 106.6 dans l'émission Heureusement en France. Est-ce qu'on ne se parlerait pas, puisqu'on parlait de jeux vidéo, est-ce qu'on ne parlerait pas un peu d'Ubisoft?
Allez.
En bien, en mal?
Malheureusement, je crois que...
Mis à mal, c'est compliqué, puisqu'effectivement, en ce moment, Alors Ubisoft, le scandale qui a éclaté il y a quelques jours, semaines, je ne sais plus, c'est qu'effectivement, il y avait des hauts placés dans Ubisoft qui avaient eu des comportements plus ou moins... Pas très MeToo, on va dire.
Voilà. Ils auraient pu être balancés avec les porcs.
Un truc comme ça. Mais bon, dans le jeu vidéo, en ce moment, dans toutes les sociétés, c'est en train de bouger un petit peu.
Sauf que ça a explosé quelques semaines avant leur grand événement où ils allaient proposer ces gros jeux.
Hein. Le fameux Ubisoft Forward, avançant vers l'avenir. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il y en a certains qui ont encore des idées d'il y a 50-60 ans en matière de conditions des femmes, etc.
Alors, ces personnes-là, apparemment, sont parties. Hein, alors, comme on dit très bien dans les multinationales, dans les grandes entreprises, ils ont décidé de partir de leur plein gré. Alors, vous savez tous ce que ça veut dire derrière. Donc, ils ont empoché un chèque et sont fait virer, pour traduire ça littéralement. Alors, cet événement d'Ubisoft proposait de dévoiler de gros jeux tels que Far Cry 6. C'est vrai qu'on n'en finit plus d'attendre ces nouvelles versions de Far Cry. Alors, il y avait eu Far Cry Primal qui n'a pas tant fonctionné que ça. Il y a eu un Far Cry récemment qui aussi avait fait un peu son flop.
Personne n'avait aimé. Donc, dans les nouveautés, il y avait aussi le nouveau Assassin's Creed. On ne dit même plus les noms, c'est le nouveau Assassin's Creed, le nouveau Watch Dog, le nouveau ceci, cela.
On ne donne plus les numéros aussi. Parce que
alors, ça ne sert à rien, c'est le nouveau.
12, 13, 14.
C'est comme pour les consoles.
Okay. Ce qui est pas mal pour la Assassin's Creed, c'est qu'ils mettent le. Comme ils tapent sur les mythologies, le dernier c'était sur l'Égypte, là c'est sur les Vikings, donc ils te mettent là, c'est Assassin's Creed Valhalla. Bientôt Assassin's Creed à la montagne, après Assassin's Creed à la plage.
Bah, c'est pas Martine. Hein.
Non, mais si, ça va être ça bientôt. Tu vas jouer Martine.
Le nouveau Far Cry 6 fait un petit peu parler de lui. On a vu une bande-annonce très spéciale où on voit le dictateur du Nil. Un dictateur du Nil, je ne sais même pas de quel océan, mais un dictateur latino qui enseigne à son jeune fils, à devenir un futur dictateur. Il lui met une grenade entre les mains, il en approche de la fenêtre et il lui apprend à jeter la grenade dans le public des manifestants. Déjà, c'est toujours sympa. L'éducation des enfants a bien évolué. Mais le comédien. Alors, on engage de plus en
Don't
plus.
Don't try this at home.
On engage de plus en plus de comédiens pour jouer des rôles dans les jeux vidéo, on l'a vu. Et là, le comédien qui joue le rôle du dictateur, c'est Giancarlo Esposito, qu'on a vu notamment, moi j'ai découvert dans Breaking Bad, qu'on voit aussi dans la série The Mandalorian, qui joue. Dans Breaking Bad, il joue Gus. Un trafiquant de drogue, c'est un personnage absolument génial, j'adore ce comédien.
Je l'ai fait, Pierre, où tu l'as fait, mais il joue pas Baby Yoda dans Mandalorian.
Non, il joue un côté Empire, pardon.
Et c'est un comédien absolument génial, ce Giancarlo Esposito, qui a un nom parfait pour jouer un dictateur, mais c'est là que il a de latino que le nom, parce qu'en fait il est d'origine italien par sa mère et afro-américain par son père ou l'inverse, il n'a pas un poil de sang espagnol, mexicain ou quoi que ce soit. Et donc il y a plein de gens de la communauté latino qui ont dit, on dit Latin X d'ailleurs maintenant. Comme ça, tu n'as plus de latino, latina. On dit latin X, comme ça, c'est les hommes et les femmes latino. Et donc, ben non, ce n'est pas un Mexicain, il ne peut pas jouer un Mexicain. Ça commence à poser problème. Donc, les gens, ils disent, on va boycotter Ubisoft, ils veulent cancel Ubisoft. Ils ne veulent même pas annuler le jeu, ils veulent annuler comment ?
Je pense qu'ils avaient déjà regroupé une communauté de haters avec leurs premiers soucis, que forcément... Dès que quelqu'un a mis ça sur la toile...
Effectivement, on voit de plus en
plus...
C'est un
peu mis le feu aux poudres.
Une belle expression. Mais en fait, le souci, c'est que... alors, il y a d'autres exemples. Alors, effectivement, il n'est pas mexicain, mais si tu commences à faire ça, il n'y a plus de limite, quoi. Et il y a un autre exemple qui est apparu, c'est par exemple Martin Sheen, le comédien américain, très connu, qui a joué dans la série À la Maison-Blanche. Donc, il jouait un président des États-Unis bien blanc, bien wasm. Il a joué dans Apocalypse Now, etc. Ça les dérange pas que ce mec-là joue des blancs. Il faut savoir que Martin Sheen, son vrai nom, alors je sais plus tous ses prénoms, mais c'est Estevez. En fait, je sais pas s'il a un poil de sang blanc, on va dire. Enfin, c'est délicat de parler de ça, quoi. Mais tu peux pas commencer à retracer tous les comédiens. Ça va être difficile de demander. Est-ce qu'un jour on va demander, alors pour un rôle de femme, est-ce que tu peux engager un acteur masculin? Je comprends un petit peu la limite. Mais
il y avait eu pareil dans les Simpsons, la voix d'Apu a été changée par Disney.
Parce que, c'est vrai que l'accent était très caricatural. Bon, alors c'est compliqué. À quel niveau tu mets ça ?
Est-ce que c'est une satire ?
Est-ce que pour jouer un jour, s'il y a un personnage gaucher et que c'est un comédien droitier qui est engagé, est-ce que la communauté, le syndicat des gauchers va porter plainte ?
L'acteur de Zatoichi qui n'est pas aveugle, vrai ?
Est-ce que Zatoichi est aveugle? Là, ça on ne sait pas. Donc les scénaristes pourraient tout dire. Oui, mais ils pourraient toujours dire que. Ouais, mais en vrai,
on
ne sait pas. Au
22e épisode, tu te poses des questions.
Mais oui, c'est ça.
Mais ils auraient pu dire ça, Far Cry. En fait, on se rend compte à la fin du jeu que ce n'est pas un latino, par exemple. Mais moi, je pense. Alors, dans Far Cry, peut-être qu'il peut y avoir une polémique, mais imaginez que vous faites un jeu.
Il n'y en a pas.
Imaginons que vous faites un jeu indé. Vous faites ça à trois, vous faites plusieurs personnalités, vous allez devoir appeler des latinos pour jouer la voix du latino, ça devient compliqué.
Si t'es obligé de trouver un vrai dictateur pour faire le rôle d'un dictateur,
c'est vrai, mais c'est même pas un dictateur le mec en plus.
Non, mais dis-toi qu'au début du cinéma, les gens croisaient dans la rue, ils disaient « Oh, vous avez le physique 2 ». Et vous serez embauché pour ce rôle-là. C'était la base du cinéma. Qu'on parle de cinéma, de séries, de films, ça, il n'y a aucun problème parce que tu peux jouer sur le ressenti des personnes. C'est du vécu, c'est des images. Mais là, on parle d'un jeu vidéo. C'est normalement censé être ça. Tu t'amuses.
Après, si on revient plusieurs siècles en arrière, le rôle des femmes était joué par des hommes aussi, le théâtre.
Il y a polémique parce qu'au début du cinéma, le rôle des noirs, en fait, c'était des blancs qui étaient
grimés.
C'est ce qu'on appelle le blackface. Et il y en a. Alors maintenant, tu pourrais plus faire de blackface. Enfin, ça serait impossible, quoi. C'est très compliqué. Quoi.
Même dans une soirée. Entre amis.
Parce qu'effectivement, ça rappelle des souvenirs. Ouais. C'est
même les Ramoneurs, ils sont.
Je dis pas que ça me viendra l'idée. Non, mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont choquantes, mais après, de où est-ce que tu traces la ligne de quand est-ce que c'est...
Là, tu es en train de cristalliser des haters sur Internet. Bravo. Que tu ne devrais pas. Tu devrais juste leur dire, bah, tu laisses couler, dans une semaine ou deux, ils seront passés à autre chose, et c'est tout. C'est juste que, comme Ubisoft était en problème avec des personnes et que ça a émergé un petit côté haineux, tu vas dire qu'Ubisoft ne s'est pas brossé les dents ce matin, tu vas avoir 30 pages sur Le Monde, que oh, c'est ignoble. Ah, non, c'est après, juste des haters.
Il y a une équipe de football américain qui s'appelait les Redskins, donc équipe de Washington. Rouge. Alors, des peaux rouges, effectivement.
Avec un, bon. Le logo de l'équipe, c'était un Indien, vu de face.
Oui. Alors, ça faisait plusieurs années, effectivement, que ce nom faisait problématique. Et puis, bon, là, forcément, du coup, avec les événements récents, donc, ils sont en train de changer de nom. Et de logo aussi.
Ça m'étonnerait qu'ils prennent White Skin pour autant.
Si tu es descendant d'Indiens, des natifs américains, comme on les appelle, je peux comprendre au bout d'un moment. Bah, voilà, enfin, c'était pas forcément fait pour se moquer, mais bon, il y a une espèce.
Oui, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de descendants des Indiens dans l'équipe.
Et maintenant, maintenant on leur a donné Internet, donc ils ont accès aux réseaux sociaux, donc ils peuvent se plaindre. Avant, on pouvait pas.
Mais le pire, c'est que les gens de Far Cry se sont dit, mais c'est cool, on a un super acteur pour jouer la voix, et puis en fait, ça se retourne contre eux. Est-ce que Dom, tu voulais rajouter une dernière news
Absolument,
avant la fin de cette
encore
émission?
Encore un petit peu de copinage, puisque tous les dimanches matins sur Radio Campus et sur Twitch, on retrouve l'émission de Veikin qui s'appelle le Twitch Café, qui parle de Twitch, YouTube, jeux vidéo, musique, etc. Et ce matin, ce dimanche matin 19 juillet, c'est un sujet très intéressant sur le Andy Gamers, en fait. Une association qui s'appelle Andy Gamers et le jeu vidéo, les handicapés qui jouent aux vidéos, qui, même en compétitif. Et avec comme invité notamment le père d'un enfant qui est handicapé, qui joue aux vidéos. Et aussi par téléphone, un des membres de l'association Andy Gamers. Et en plus, ce week-end, il y avait un événement caritatif en ligne, des compétitions de jeux vidéo, etc., qui a permis de récolter. Ils avaient fixé 2000 euros comme objectif. Ils les ont récoltés dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, c'est encore jusqu'à 20h ce soir, mais bon, ça serait un petit peu tard. Mais handygamers.com pour tout ça. .com pour tout savoir sur cette association, si vous connaissez, oui. Peut-être dans votre entourage, des enfants qui veulent jouer aux jeux vidéo et qui se font moquer d'eux parce qu'ils sont pas aussi rapides que les autres. Il faut savoir qu'effectivement, il y a plus en plus de gens qui développent du matériel, on peut en trouver en magasin. Il y a toutes les informations sur le site handygamers.com.
Le matériel a beaucoup évolué, effectivement, pour permettre, en fonction
des
handicaps,
adapter des souris, des claviers adaptés à tous les handicaps pour jouer aux jeux vidéo et participer même à des compétitions. Donc, continuez sur Andy Gamers. Il y a toutes les infos aussi sur le marathon caritatif.
Et on a déjà partagé le lien.
Absolument.
Sur
et l'émission est super intéressante. Donc, vous allez sur le site campuslille.com dans la partie podcast. Vous regardez le dimanche matin l'émission Twitch Café. Vous réécoutez. C'est super intéressant.
Et on lui demandera quelques conseils pour lancer nos propres Twitch.
Courage.
Bientôt. Voilà, c'était la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine de 18h à 19h. On se quitte avec Tété et une reprise de Stevie Wonder Superstition. On espère voir les nous juste après nous. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Bonne semaine. Salut. There are superstitions writings on the wall. Fair and superstitious, ladders about to fall. Dark mountain baby brought the looking glass. 7 years of bad love, the cool things in your past. Believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition and the way. Very superstitious. Wash your face and hands. Rid me of the problem. Do all that you can. Keep me in a daydream.
things that you don't.